Bonjour Anaïs.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, une exposition et l'histoire de nos assiettes.
Des patates à frites de nos bistrots aux légumes anciens qui opèrent un retour fracassant sur les étals. Ouh, cette voix d'hiver qui revient. L'exposition « Nourrir Paris, une histoire du champ à l'assiette » raconte le parcours de ce que les Parisiens mangeaient, mangent et mangeront peut-être.
J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil.
Voilà. Je m'en fous, par exemple, chef.
Je m'en fous, moi, je m'en fous du chef.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va, mon petit Marcel?
Très bien. Qu'est-ce qu'il y a?
Il n'y a rien, on a des broutilles.
C'est monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil.
Dans le mimosa? Du persil et des oignons. Jamais d'estragon. Autrement, c'est pas bon.
Les historiens commissaires de cette exposition, Emmanuel Cronier et Stéphane Lebras, ont voulu retracer l'histoire d'une identité alimentaire au-delà de l'art gastronomique français déjà très fréquenté. L'exposition s'intéresse à ce qui remplit les assiettes des Parisiens tous les jours, comment les légumes, les viandes et autres ingrédients sont produits, acheminés et distribués en écho aux exigences contemporaines de proximité, de qualité et de traçabilité, et aussi de conditions de travail de ceux qui les produisent. Car d'après ce que nous savons encore, ces problématiques sont constantes à Paris et les révoltes généreuses depuis le Xe siècle.
Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac.
Avec 200 000 habitants au milieu du XIVe siècle, Paris fait figure de très grande ville et devient gigantesque lorsqu'elle dépasse les 2 millions dans les années 1880. L'approvisionnement, c'est la question cruciale pour ses gouvernants sous peine de pénurie et de vindicte populaire. Si l'ouest de la France alimente Paris au printemps, après l'automne, les pays du Nord, où la maturation est plus tardive, prennent le relais. Un calendrier, des infrastructures, une organisation industrielle pour nourrir la capitale se mettent en place au fil des siècles. Dans le parcours des salles de la bibliothèque Fornet, les idées reçues ont la vie dure. À commencer par la mondialisation alimentaire, que l'on attribue volontiers aux années 1980 avec ses containers et ses tankers, cette circulation massive est établie dès le XVIIIe siècle pour les produits d'exception comme le thé et s'étend à une très grande variété, toujours plus grande, d'aliments jusqu'à nous. Les circuits courts revendiqués aujourd'hui sont monnaie courante intramuros. Les terres des Visitandines de Chaillot ou encore la plaine des Vertus, la Courneuve, Aubervilliers, autant de lieux de production disparus sous l'urbanisation de l'Île-de-France. Les denrées arrivent sur les marchés, puis aux Halles à partir de 1850, dans ce célèbre ventre de Paris déplacé à Rungis dans les années 1970, pour être ensuite distribuées, impliquant un fourmillement de métiers, du maraîcher à la crémière, en passant par la bistrotière.
Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que le ministre nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1 000 francs, en quittant le Morbihan. Demi un chemin faisant, comme par enchantement, une vache à 5 000 francs, en arrivant drôlement, une vache à 5 000 francs.
Les Parisiens évaluent leurs gouvernants, puis leurs élus, en fonction de leur capacité à assumer leur approvisionnement, à combattre les hausses de prix et à lutter contre la spéculation. Après l'échec lamentable du siège de Paris par les Prussiens en 1870, certains sont allés jusqu'à se tailler des steaks dans la trompe des éléphants des ménageries de la ville. La leçon est bien comprise. L'approvisionnement est rationalisé, mais rationné aussi. Les circuits d'acheminement et la gestion des stocks deviennent très performants pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à l'occupation et son pillage systématique qui replonge Paris dans la faim.
Merci beaucoup Anaïs, Monsieur Septime, enfin Louis de Funès et Jean Poiret et sa vache à 1000 francs. Il nous fallait bien ça pour nourrir Paris. Nourrir Paris, une histoire du champ à l'assiette. C'est une exposition que vous pouvez voir à la bibliothèque Fornet. Une exposition, si on veut les informations utiles, tout ça, c'est sur le site internet franceculture.fr, la page du journal de l'histoire. Anaïs.
Et exceptionnellement, donc je tiens à le signaler, le catalogue est gratuit.
C'est exceptionnel.
L'exposition.
Ah bah alors ça vaut le coup d'y aller. Merci beaucoup Anaïs.